faire en sorte que des emplois se créent ailleurs qu'à Paris. C'est vraiment un truc qu'on porte dans nos tripes. Pendant le confinement, donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, la Terre nous envoie quand même un peu un signal. Ça n'a juste aucun sens, ce modèle de hyper-concentration.
Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de Ciao Paris. Je m'appelle Valérie Bohin et je vais à la rencontre de ceux qui vivent ce que je rêve de faire, quitter Paris. Avant de commencer, je voudrais remercier Adela DLF pour son commentaire laissé sur Apple Podcast. Un podcast qui fait rêver pour ceux qui n'auraient pas encore fait leur Ciao Paris. Un podcast émouvant et vrai. La vraie vie des gens, c'est bien aussi. Merci Adela pour tes encouragements. Continuez vous aussi à partager vos impressions en laissant des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. C'est ce qui nous aide le plus à faire connaître et surtout à poursuivre l'aventure Ciao Paris. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud, rencontrer Anaïs Préto, cofondatrice de Live Mentor, qui a déménagé sa société et 15 de ses salariés en moins de 3 mois, en plein déconfinement. Exceptionnellement, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour écouter le récit de deux de ses salariés, Victor et Milena, qui ont décidé de quitter Paris sur un coup de tête suite à l'invitation d'Anaïs. Je vous laisse donc avec cette nouvelle histoire, ce nouveau départ un peu particulier, celui d'Anaïs, 30 ans, qui a quitté Paris pour vivre et travailler à Aix-en-Provence. Bonjour Anaïs.
Hello.
Bon, merci de me recevoir dans ton nouveau chez-toi, de standing.
Bah, de standing, oui. J'ai pas l'habitude de ça.
Ça claque. Hein.
Je n'avais pas d'hôtel particulier à Paris. Oui, effectivement, donc on a eu énormément de chance, on a trouvé un bien donc, qui est dans un hôtel particulier qui date de Louis XVI. Enfin, je dis ça parce qu'il y a marqué ça sur la plaque devant l'immeuble. J'en sais pas plus pour le moment sur l'histoire.
Tu viens d'arriver en même temps.
Oui, je viens d'arriver, ça fait un mois que je suis là. Et malheureusement pour toi, tu n'as pas le bruit des cigales encore parce qu'elles dorment à cette heure-là.
À partir de quelle heure elle se réveille? Parce que là, il est quoi? Il est 11h
Vers 14-15h, c'est vraiment stéréo, quoi. Limite...
À l'heure de la sieste.
Limite, ça pourrait t'empêcher de dormir.
Ouais. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, il y a les voisins qui prennent leur café.
Absolument.
Dans le petit jardin.
Et
c'est très mignon. On entend quand même les klaxons au loin. Hein.
Oui, bah parce qu'on est...
Mais quand même
on
dans
est
le
en fait
centre d'Aix-en-Provence.
À la frontière du centre historique et de la zone un peu plus moderne. Ce qui est pratique parce que ça permet de concilier le fait d'aller au marché à pied et d'aller en voiture ailleurs.
Ouais.
Puisque Aix, ça peut être un peu galère, je crois, pour le trafic, même si, avec mes standards parisiens, j'avoue que je trouve que ça va. Et donc là, on est dans le hall qui est... je pense, limite, on a choisi l'appartement pour le hall. Donc il y a des volumes qui sont magnifiques, avec cette fraîcheur, en fait, dès qu'on arrive. Et donc, nous, on est au rez-de-chaussée, ce qui, normalement, n'est pas quelque chose qui est très bien vu. Enfin, en tout cas, à Paris, on évitait le rez-de-chaussée. Mais ici, c'est vraiment un plus.
Et donc, tu vis ici avec ton conjoint.
Ah, absolument.
C'est très mignon.
Je crois qu'il y a 102 mètres carrés.
Ouais.
Ce qui permet, du coup, d'avoir des pièces inutiles, bien très rares à Paris, donc, et notamment là-bas la pièce pour les affaires de cheval.
Ah d'accord.
Qui avant était sous mon lit, ce qui était source d'éternuement, parce que beaucoup de poussière. Alors, en vrai, je pense que le salon faisait la taille de mon appart avant.
Ah, oui.
Pour ça, on paye à peine moins cher que ce qu'on paye à Paris. Mais en fait, nous, on a fait plutôt le choix de dépenser ce qu'on dépensait à Paris pour avoir donc beaucoup plus grand. Mais nous c'était plus une logique d'avoir un meilleur niveau de vie à dépenses équivalentes que de réduire les dépenses. La première fois que j'ai un appart que j'ai vraiment choisi parce qu'il me plaît, quoi.
Ouais.
Pas juste parce qu'il est dispo. Moi déjà, j'ai pas grandi à Paris. Donc c'était... Déjà, il a déjà failli choisir de venir à Paris, ce qui a jamais été un truc... ultra naturel pour moi. Je m'étais toujours dit, je commencerai jamais à travailler à Paris. J'étais allée à Strasbourg, j'étais allée à Madrid, j'étais allée à Berlin, à un petit peu partout. Et à chaque fois, j'adorais, quand je posais mes valises, j'avais envie de découvrir tout, sauf à Paris.
À quel âge t'arrives à Paris ?
À Paris, moi j'arrive à 20 ans, après avoir fait une classe prépa à Strasbourg, où j'arrive pour ma première année d'école de commerce, et c'est la première fois, c'est un sentiment que j'ai retrouvé à Singapour après, où je me suis dit, oula, il y a quand même beaucoup plus de contraintes dans cette ville que de liberté. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une sorte de standard ultra élevé qu'il fallait atteindre pour pouvoir commencer à en profiter. C'était une ville qui, c'est pas qu'il fallait l'apprivoiser, mais il fallait avoir un certain standard pour pouvoir avoir le droit en fait d'en profiter.
Moi, je monte beaucoup à cheval. C'est un truc que j'ai toujours fait depuis que je suis toute petite. J'ai grandi en Franche-Comté, donc à la campagne, et c'est un truc un peu normal, quoi. Là-bas, non pas de monter à cheval, mais d'être en tout cas dehors tout le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose que bon, j'avais complètement dû abandonner pendant mes études, tout simplement parce que alors si j'avais déjà pas la thune pour boire des verres, monter à cheval, c'était exclu. Et en fait, j'ai commencé, donc quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent avec mon premier job, j'ai directement eu envie de refaire ça, parce que c'était vraiment ma passion, j'adore ça, et je pense que je vais adorer ça jusqu'à mes 80 ans. Et en fait, quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet à Paris, c'était l'angoisse absolue. Donc au départ, je montais les chevaux des autres, parce que j'avais pas les moyens de m'en acheter un, parce que c'est super cher. Et je faisais des missions pas possibles, à aller à Saint-Germain-en-Laye en RER, ce qui me prenait une heure, puis prendre un autre bus de une heure. Et au début, je me disais pas que c'était pas normal, je me disais juste trop bien, je peux monter à cheval. Et en fait, ce truc a continué. Après, quand j'ai pu m'acheter un cheval, donc je l'ai mis dans une écurie qui était en Picardie, s'il te plaît, donc dans une autre région que l'Île-de-France. Donc tous les jours, enfin presque pas tous les jours, mais je faisais entre 5 à 6 fois par semaine les allers-retours pour aller monter là-bas. Donc ça fait 45-50 minutes quand ça roule bien, mais en fait ça roule jamais bien. Donc c'est plutôt, tu vois, je mettais genre 2h, 2h30 par jour de transport.
Et tout ça en travaillant à temps plein.
Ouais, tout ça en travaillant à temps plein. Et en fait, c'est...
À quel moment t'allais monter à cheval, excuse-moi?
Alors, le matin ou le soir?
Mais à quelle heure?
Ah bah, le matin, c'était un peu chaud. Le matin, il fallait se lever à 5h. 6h, si t'arrives à télétravailler de là-bas. Ce que j'ai pu faire après avec Live Mentor quand j'ai changé de boulot. Ça devenait possible. Mais sinon, quand j'étais chez One Fine Stay à l'époque, on avait des horaires un peu classiques, quoi, où il fallait arriver à 10h. Là, c'était genre du 5h30, 6h, donc c'était un peu chaud. Et en plus, c'est horrible parce que la moitié de l'année, il fait nuit, quoi. Donc tu montes dans la nuit. Ce qui m'a un peu amené à réfléchir, c'est qu'une fois que j'étais sur le cheval, bon, ben, là, on oublie tout. Je pense assez proche de la méditation d'une certaine façon parce que c'est très silencieux comme sport, pour être très concentré sur soi. Mais en fait, avant et après, donc le moment où le cheval, il y a tous des rituels, il faut préparer le cheval, le brosser, lui mettre la selle, ça met genre, je sais pas, 30 minutes à peu près. Et en fait, je me rendais compte qu'à chaque fois, j'étais le regard sur ma montre parce que quand j'y allais le matin, en fait, c'était tellement serré en termes de timing que fallait que j'aille vite. Donc, je profitais même pas trop en fait, de ce moment-là. Et après, dès que je redescendais de cheval, il fallait pareil que ça aille super vite. J'avais même pas le temps de passer un peu de temps avec le cheval ou ce qui est un truc qu'on aime bien faire en général quand on monte à cheval. Et en fait, ça, c'est vraiment, je pense, la raison pour laquelle j'ai vraiment voulu partir de Paris. Et qui a été vraiment déclenché par le confinement, on en reparlera après. Et je devais abandonner en fait la notion un peu de spontanéité. Tout devait être très organisé si je voulais faire tout ce que je voulais faire. Parce que les distances sont longues, parce que y a un trafic de dingue, parce que les horaires sont faits de telle sorte que tout le monde arrive au boulot au même moment, donc on se retrouve tous porte de la chapelle pendant une heure à se regarder dans le blanc des yeux.
Et sur le moment, quand t'es sur ton cheval, il se passe quoi pour toi?
La Chantilly, c'est une très belle région. C'est un des hauts lieux du cheval en France. C'est très connu pour les courses notamment. Donc c'est des très belles forêts avec des allées cavalières, des pistes en sable. Donc ça, pour le coup, pour le cheval, c'est génial. Alors c'est très très dépaysant pour dire que c'est à une heure de Paris. Il y a des gens qui choisissent d'habiter là-bas d'ailleurs. Mais tout est calme. Et pour le coup, je regarde pas ma montre quand je suis à cheval. Mais je pense qu'en fait, c'est le seul moment dans ma vie à Paris où je regarde pas ma montre. Et en fait, ça c'est pas... C'est une petite douleur, c'est pas ce que j'appellerais une souffrance, mais ça reste quand même un petit truc qui te titille dans le ventre. Et je me suis rendu compte.
Et qui est là tout le temps.
Et qui est là tout le temps. Et je me suis rendu. En fait, c'est cette notion de tout est pas catastrophiquement compliqué, parce que catastrophiquement compliqué, c'est gérer une maladie, gérer des vrais problèmes d'argent. Mais tout est un peu compliqué. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi compliqué. Et juste, si c'est compliqué, c'est parce qu'on essaye de faire rentrer des carrés dans des ronds. Et peut-être que, je sais pas, genre à Paris, on essaye de t'habiter, on est trop. Et du coup, ça bouchonne. Et il faut qu'il y ait des gens qui commencent à changer un peu le système, quoi. Pour que, à minima, ceux qui veulent rester, peut-être, puissent vivre différemment, je sais pas. Mais c'est juste, je me suis dit, il y a juste un truc qui tourne par rond. Si pour aller faire juste du sport une fois par jour, ce qui est quand même un truc normal, quoi. Si ça, c'est déjà autant d'organisation par rapport à un job, qu'est-ce que ça va être le jour où tu voudras faire du sport, avoir des enfants? Ce sera juste pas possible, en fait. Pas d'enfant, mais un cheval. Je suis cofondatrice et directrice générale d'une société qui s'appelle Live Mentor. C'est un programme qui accompagne des créateurs d'entreprises avec un modèle 100% en ligne. Donc on accompagne des personnes qui veulent créer des podcasts parfois, mais pas que, et qui veulent se lancer en freelance ou qui veulent monter des sites e-commerce. Et on les accompagne en général dans les 3 premiers mois de leur création d'entreprise. C'est une formation qui est éligible donc au financement par le compte personnel de formation, par Pôle emploi. Un créateur d'entreprise sur 3 quand même qui passe par Pôle emploi. Donc c'est un peu le premier fonds d'investissement de France. Je fais ça depuis 2017 maintenant, et donc à l'origine à Paris. Et ça, c'est, je pense, dans le modèle, c'est un point important, je pense, pour des personnes qui se posent la question de si leur boîte est facilement transposable ou pas. Nous, on était vraiment 100% digital. On n'a jamais eu besoin en fait d'être à Paris, on s'en est rendu compte après. Notre mentorat, c'est l'accès à une messagerie avec un coach qui est accessible où qu'on soit. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important dans le modèle, puisque la raison pour laquelle on a créé ça, c'est parce qu'on ne voulait pas que l'accès à l'accompagnement entrepreneurial de qualité soit conditionné par des raisons géographiques ou des raisons d'aléas de parcours ou des questions de genre. Et pour que ce soit vraiment accessible, en ligne, c'est un peu bateau, mais c'était vraiment la solution.
Pourtant, malgré cette envie de démocratiser l'accès à la formation et à l'accompagnement entrepreneurial, vous avez quand même le sentiment, chez Live Mentor, d'avoir besoin d'être à Paris.
Ah oui, mais en fait, c'est
ça
que
tu dis, on s'en est rendu compte après. Après quoi ?
Alors, après le confinement, en fait. Pour être honnête, je pense qu'on le savait déjà un peu. C'est juste qu'il y avait une inertie. En fait, ça, c'est vrai que c'était complètement paradoxal. En fait, depuis le début, dans la boîte, un des chiffres qu'on gagne le plus, c'est la part des personnes qui sont en dehors des grandes villes. Parce que c'est très important pour nous de porter cette idée de re-régionalisation et de redynamisation des territoires, de faire en sorte que des emplois se créent ailleurs qu'à Paris. C'est vraiment un truc qu'on porte dans nos tripes. On trouve ça juste trop bizarre d'avoir cette hyper-polarisation des ressources à Paris, d'avoir toujours plus d'événements à Paris et d'avoir des airs, quoi. Donc, on l'a toujours porté très fort, ce truc. Mais pour autant, nous, on était à Paris. Je pense que les raisons pour lesquelles on se disait que c'était impossible, c'est parce qu'on est financé par des investisseurs, donc on se disait qu'on ne sera pas visible si on n'est pas à Paris. Ça, je pense, c'était une des raisons. Et après, il y avait aussi le fait que on avait levé des fonds à Paris, donc on se met à Paris, quoi. Et en fait, on commençait déjà à avoir un peu des réflexions sur ça un an avant le confinement, parce que, outre notre mission, on commençait à se dire qu'on était quand même un peu paradoxaux de vouloir créer de l'emploi ailleurs, mais de nous les créer à Paris. Et aussi parce que on a commencé à avoir une grosse vague de recrutement, donc à recruter beaucoup de personnes, notamment des jeunes, et à des salaires qui, nous, pour pouvoir que l'entreprise fonctionne, à des salaires qui étaient des salaires corrects par rapport à la moyenne française, mais qui, par rapport à Paris, demandaient quand même pas mal d'efforts.
Est-ce que je peux te demander le salaire ?
Ouais, on essaye de limiter les écarts de salaire dans la boîte. Alors, on pourrait faire mieux, mais le minimum de salaire chez nous, c'est 30 000 euros. Après, il y a du variable par-dessus. Ceux qui s'en sortent bien, ils peuvent aller jusqu'à 45. Mais disons que quelqu'un qui fait moins que ses objectifs tous les mois, c'est pas le but, mais c'est pas arrivé, c'est 30 000 euros par an, brut. Parce que même si on avait le variable, je voulais pas être dans une configuration où, parce que, je sais pas, la personne, elle est un peu en dedans pendant un mois, parce que, je sais pas, elle a eu un problème familial, qu'elle puisse pas payer son loyer, quoi. Mais ça reste quand même pas très élevé. Moi, quand j'ai commencé à travailler à Paris, j'étais à 36 000, ce qui semble pas très différent, mais en fait, ça fait une énorme différence à ces niveaux de salaire-là. Et déjà, j'étais un peu tendu, je m'en rappelle, on était à deux dans 30 mètres carrés avec une pote, c'était un peu exigu tout ça, et c'était vraiment des styles de vie où il allait falloir qu'ils comptent un peu tout le temps, quoi. Et moi, je me disais, c'est quand même pas top tout ça, parce que, déjà, c'est pas un bon style de vie qu'on leur propose, donc c'est pas attractif, et en plus, ça pose quand même la question de la rétention. Je me suis dit, c'est des personnes qui vont rester chez nous un an et évidemment qui vont dire, ça suffit, quoi, je peux pas. Et on se disait, mais c'est fou, parce qu'en fait, avec ce salaire-là ailleurs, on pourrait vraiment être compétitif et vraiment offrir à ces salariés des conditions de travail vraiment sympas. Pendant le confinement, donc tout s'est un petit peu arrêté.
Et qu'est-ce qui se passe alors ?
Pendant le confinement, il y a plusieurs trucs. D'abord, Je pense qu'il y a une grande réflexion générale que beaucoup de gens ont eue, où je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, la Terre nous envoie quand même un peu un signal. Ça n'a juste aucun sens, ce modèle de hyper-concentration, de hyper-mobilité, où il se passe un truc en Chine et les gens se baladent tellement partout avec une vitesse folle, et ce qui fait que bah, on se retrouve en deux secondes avec une pandémie qui doit paralyser tout le monde. Donc ça a été un peu cette réflexion un peu philosophique fleur bleue, mais de se dire attends, mais enfin juste on peut pas redémarrer de la même façon. Et moi, le premier truc sur lequel je me suis dit qu'on pouvait jouer, c'est quand même à minima essayer de au moins à faire notre petite part, en sortant du côté hyper concentration des villes. Qu'on continue, je pense, nous, start-up, à chaque fois, en se recréant à Paris, à perpétuer. Le moment où on s'est vraiment dit, là, on va le faire, pour le coup, c'est pas très poétique, c'est vraiment financier. Donc, il y avait cette idée, là, générale, mais on a regardé notre compte de résultats quand on a commencé à voir que cette crise était là pour durer. On s'est dit, OK, bah, il faut juste qu'on réduise la voilure. Donc, comment on fait ? Premier poste, les salaires. Et on n'avait pas envie de couper dans les salaires. Et le deuxième poste, c'était les bureaux. Et en fait, on s'est dit, OK, donc on dépense 25 000 euros de bureau, là, pour un bureau dans le 11e.
À quelle fréquence ?
Par mois.
25 000 euros par mois ?
Ouais, c'est cher, les bureaux à Paris.
Ouais. Ah oui ?
En plus, ça n'a aucun sens, parce qu'on voit bien, les salariés ne veulent pas y retourner, pour la majorité. Pas retourner à Paris, en tout cas. En plus de ça... C'est quand même contre nos convictions, et c'est un projet qu'on a depuis un an, mais sauf qu'on ne l'active pas parce que, bah, comme toutes les boîtes, il y a de l'inertie, parce qu'en fait on a notre bail et c'est compliqué, et nanani nanana, et il n'y avait pas vraiment de date butoir. Et en fait, le confinement, ça a été exceptionnel parce que déjà ça a appelé à des mesures ultra radicales, parce que enfin, il fallait qu'on coupe les coûts pour survivre, quoi, de toute façon. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, vu que tout s'est arrêté, c'était vraiment la parfaite occasion pour ne pas redémarrer de la même façon. Et quand je pense que ça aurait été beaucoup plus dur s'il n'y avait pas eu le confinement, parce qu'il aurait fallu commencer à sonder les gens, et les gens se seraient dit « Ah oui, mais peut-être, ah non, on part en septembre, peut-être en novembre, là, on dit « Bon, écoutez, les gars, on ne revient plus au bureau. Il y a un bureau qui va être ouvert le 1er septembre à Aix-en-Provence qui veut venir. » Et du coup, c'était très clair, très net, et il n'y a pas eu de moment d'inertie où, en fait, on se regarde tous un peu dans le blanc des yeux au bureau, « Est-ce que tu pars ? Oui, non, machin. Hein. »
Vous décidez de partir, de déménager Live Mentor.
Alors, on ne déménage pas. On a décidé d'ouvrir un autre bureau pour pouvoir splitter les salariés.
D'accord. Donc, vous décidez de splitter le bureau, d'ouvrir un bureau à Aix, ouais. Et vous l'annoncez aux salariés. Ceux qui veulent venir, viennent. Ceux qui veulent rester, restent.
Ouais, alors
en gros, c'est ça.
C'est ça, exactement. Donc, on avait fait un petit sondage quand même avant pour voir déjà ce que les gens voulaient après le confinement. En fait, un tiers des gens qui voulaient rester à Paris parce que ça leur plaît et tout. Mais on a quand même les deux tiers qui voulaient soit faire du télétravail total, soit bouger dans un autre bureau. Et donc ensuite, on a choisi la ville en petit comité pour le coup. Et ensuite, ouais, effectivement, donc on a dit « Ok, bah, on vous a entendu, on ouvre un bureau en province, c'est à Aix-en-Provence. À partir du 1er septembre, c'est ouvert. Donc ceux qui veulent viennent. » Et on a fait un petit programme de primes où en gros, on a payé une partie du déménagement. Enfin, c'était une prime de 500 euros. Qu'on a donné aux personnes qui voulaient déménager.
Et à ce moment-là, ça se passe comment ? Vous êtes dans une salle, vous réunissez tout le monde ?
Ah non, on est à distance parce que c'est pendant le confinement.
Ah, c'est pendant le confinement
ouais.
Ça se passe. Ah pardon, j'ai cru que c'était
un mois après le confinement, en gros, le début du confinement, donc au plein milieu, quoi. Le premier mois, on a un peu fait tourner un petit peu la machine financière pour voir à quel point on pouvait vraiment jouer sur le bureau, à quel point on gagnait vraiment de l'argent là-dessus. Même si je pense que d'un point de vue psychologique, ça aurait été compliqué pour moi qu'on fasse machine arrière. On a commencé un peu à préparer les gens.
Donc au final, combien de personnes ont déménagé à Aix ?
Ouais, et on a 17 personnes qui ont déjà déménagé et 3 nouveaux recrutements qui arrivent à Aix. Donc ça va être un bureau d'une vingtaine de personnes.
Live Mentor compte combien de salariés ?
On est 45, donc... Ça fait quand même presque la moitié maintenant. Mm. Dans un mois, on va faire venir tous les gens de Paris. Donc, on espère bien faire cendrer quelques personnes en plus qui ne connaissent pas forcément la ville ou qui hésitaient.
J'espère les convertir.
Ouais, j'espère. Bah, je pense qu'on n'a pas choisi la ville la plus compliquée quand même pour ça.
Et alors, comment tu choisis Aix ? Enfin, comment vous choisissez Aix ?
On a fait une première présélection avec toutes les villes qui étaient à moins de 4 heures de TGV de Paris. Parce qu'on savait qu'on allait garder quand même une antenne à Paris, et je savais pas encore à ce stade comment les gens allaient se répartir et à quel point il allait falloir que je retourne à Paris fréquemment. Sachant qu'on a quand même nos investisseurs là-bas, et même si en vrai il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire par visio, on s'en est rendu compte pendant le confinement, mais bon, quand même, on savait qu'on devait avoir une liaison facile pour Paris, et aussi parce que, bah, mine de rien, on allait quand même faire bouger des gens qui étaient à Paris avant, donc avait certainement quand même un cercle familial ou d'amis qu'ils allaient avoir envie de revenir, donc c'était un bon argument. Donc on a fait la liste, et ensuite on a demandé donc à notre comité de direction, donc il y a 4-5 personnes, de prendre les 3 villes dans lesquelles eux se verraient déménager ou aller fréquemment. Il faut quand même que ce projet soit porté par des personnes de la direction, ne serait-ce que parce que pour avoir quand même quelqu'un qui puisse coordonner sur place l'implantation du bureau, et pour avoir un vrai référent de la culture aussi. Et en fait, s'est retrouvé de façon très originale avec 2 villes, Aix-en-Provence et Bordeaux. Je me suis dit que Aix était mieux parce que c'était vraiment une ville piétonne, et dans une perspective de potentiel reconfinement, j'avais pas envie que mes salariés soient obligés de prendre les transports en commun. Et Bordeaux, c'est une ville plus grande que Aix et moins piétonne. Les bureaux étaient plus chers aussi à Bordeaux. J'ai l'impression que c'est une différence de x2. Donc un bureau qui coûterait 20 000 coûterait peut-être 10 000 à Bordeaux. À Aix, c'est x3 voire x4. La différence. Aix, c'est vraiment pas cher pour les bureaux. Et je me suis dit, pour la partie vraiment RH, donc pouvoir aussi attirer des talents et avoir une offre vraiment différenciante, Aix, pour le coup, là, c'était la médaille d'or, parce qu'il y a très, très peu de start-up, et ça n'a juste rien à voir, les discussions, quoi.
C'est-à-dire
à Paris, la concurrence, elle est plus faible. On peut vraiment prendre le temps de choisir, parce qu'on n'est pas dans cette espèce de course effrénée à Paris, où tout le monde se bat un peu pour les mêmes talents. Et aussi, d'un point de vue salaire, on voit que quand on annonce le salaire, les gens disent « Ok, c'est faire ». Parce qu'on n'a pas baissé les salaires en arrivant ici. On a gardé exactement les mêmes. Et là, en fait, je trouve que c'est une fierté pour, en tant que chef d'entreprise, de dire, j'ai une proposition de valeur pour le salarié qui est correcte, et il est satisfait de ce qu'il va pouvoir faire avec. Et ça, c'est quelque chose que... Ouais, je ne dormais pas super tranquillement là-dessus, quoi, à Paris.
Quand tu quittes Paris, en tant que chef d'entreprise, il y a des choses que tu es obligé de lâcher.
Qu'est-ce que je lâche ? On lâche un écosystème, ça c'est clair. Je pense que c'est notre responsabilité, nous aussi, en tant que chef d'entreprise, de plutôt se dire, comment est-ce qu'on recrée cet écosystème ailleurs ? S'il n'y a pas d'autres boîtes, on sera la première sur le territoire, et on organisera un réseau autour de soi. Nous, en l'occurrence, on est quand même c'était un critère de choix, on est quand même dans un écosystème qui est déjà un peu présent sur la partie start-up, investissement. Donc c'est à nous d'aller vers eux, et on va le recréer. Donc ça moi, je pense qu'il faut juste le faire. Et de toute façon, l'écosystème ne va pas se créer si on reste tous à Paris.
C'est juste... C'est un peu politique, en fait, votre décision.
Franchement, oui. Après, c'est multifactoriel. Donc, ça dépend de... Je ne veux pas non plus faire du storytelling en disant qu'on a fait ça que pour ça. Il y avait aussi une raison économique et une raison lifestyle. Moi, je ne vais pas dire que je me suis sacrifiée en venant habiter à Aix-en-Provence. C'est quand même sympa aussi. Mais oui, il y a quelque chose de politique aussi. C'est bizarre, par exemple, pour une entreprise comme Live Mentor, de défendre partout. Il faut créer de l'emploi ailleurs en région. Mais nous, on crée tout ça à Paris. Enfin, c'est juste complètement désaligné. Donc oui, il y a quelque chose de politique là-dessus. Je pense que des gens diraient qu'on perd de la visibilité. Moi, je ne suis pas sûre, parce qu'aujourd'hui, la visibilité, elle s'acquiert en ligne. Moi, je suis autant visible sur LinkedIn en étant à Aix-en-Provence qu'à Paris. Et c'est un des gros canaux pour la visibilité. Je pense pas que la visibilité, elle s'acquiert encore beaucoup de nos jours via les conférences qu'on fait à Paris. Les conférences, elles se font en ligne de toute façon. Et donc, je pense que c'est essentiellement ça. Écosystème et peut-être un peu visibilité, mais je pense qu'il y a des façons de contourner la visibilité. Et je pense que certains diraient peut-être l'accès au financement, mais... Là, je ne peux pas témoigner là-dessus, parce qu'on a déjà, nous, levé des fonds. Donc, on est déjà un petit peu dans le circuit, même si on est loin d'être arrivé. Mais on est déjà un petit peu connu de ces fonds-là. Je sais que certains auraient peur de dire « Attends, je vais investir peut-être en amorçage sur une boîte que je ne vais pas voir. » Mais ça, je pense que c'est un faux argument, parce qu'en réalité, les fonds d'investissement ne viennent pas quand même tous les jours dans la start-up. Enfin, en tout cas, nous, ce n'était pas le cas. Il faut garder le contact par mail, il faut garder le contact par des visios, il faut faire des boards. Et un board, c'est une fois par mois. On peut venir à Paris tout à fait pour le faire, si on veut le faire en présentiel. Tout ça, je pense que c'est un peu des faux arguments. Et puis, encore une fois...
Qu'est-ce que toi, t'as lâché ?
Moi, j'ai lâché des amis. Lâché, entre guillemets, un réseau d'amis que j'ai depuis l'école, en fait, depuis 20 ans. Donc, non, ça, c'est normal. Mais je pense que...
En étant en France, c'est une problématique quand même différente de l'expatriation très loin, au sens où c'est quand même un pays très bien connecté, les distances ne sont pas très grosses et les gens peuvent venir lorsqu'ils le souhaitent. Et en plus, le fait d'être dans une région un peu sympa et avec de toute façon un appart plus grand qu'à Paris, ce qui fait qu'on peut facilement accueillir les personnes, je pense que c'est plus à soi de réfléchir quand on prend son appart, avoir quelque chose qui permette, si les amis, c'est quelque chose qui est important. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Bah, une technique assez simple, c'est de prendre juste une chambre en plus et de les inviter, quoi. Et ils viennent, hein, très facilement, surtout quand il fait chaud.
À partir du moment où vous décidez de déménager Live Mentor, tout va très vite. C'est-à-dire que vous décidez un mois après le confinement, donc on est en avril, vous décidez de déménager, enfin, d'ouvrir un bureau à Aix. C'est quoi votre rétro-planning et qu'est-ce que vous mettez en place pour organiser le déménagement?
Nous, on est pas très bons sur tout ce qui est rétro-planning, mais quand même, je vais essayer de dire un peu ce qu'on fait. On a fixé une date, c'était le 1er septembre. On a dit aux gens qui voulaient être à Aix, faites ce que vous voulez entre-temps, mais par contre, organisez-vous pour être le 1er septembre, s'il vous plaît, ou en tout cas à partir de septembre à Aix, parce qu'il y aura un bureau. Donc, à partir de là, donc, on officialise le fait qu'on déménage à Aix donc, en avril. En mai, le 11 mai, je crois que c'était la date de la fin du confinement, on a les premiers salariés qui sont partis sur place. Donc on a Victor, qui est un de nos salariés, qui est le premier, je crois, à avoir trouvé son appartement, qui est parti vraiment le 11, littéralement, ou 12, je ne sais plus. Mais,
il vient tout à l'heure ?
Ouais, il vient. Donc là, le 12, on avait déjà le coworking et la première personne sur place, donc on ne pouvait pas faire demi-tour, parce que sinon, le pauvre Victor se serait retrouvé tout seul à Aix. Je pense qu'il nous en aurait voulu un peu.
À quelle date est-ce que tu es arrivée à Aix ?
Moi, je suis arrivée le 15 juillet. Et là, on commence à avoir pas mal de monde. Mais le dernier arrive dernière semaine d'août. Donc là, on est mi-août. Là, on commence à être une bonne quinzaine. Ouais.
C'est cool.
Et tu vois, là, en plus, il y a des personnes... Il y a y en a qui viennent justement d'arriver dans l'appartement. Donc, c'est réel. Il y a vraiment des gens qui travaillent pour Live Mentor à Aix.
Donc, tu décides, toi, de venir vivre à Aix-en-Provence, tu n'as jamais vu Aix-en-Provence, à part en carte postale.
Ouais, même pas. J'avoue, j'avais vu sur Google Images. Après, j'avais vu qu'il y avait Provence.
C'est la carte postale du 21e siècle.
Ouais. Non, c'est vrai. Hein. J'avais vu quand même qu'il y avait Provence dans le nom et je me disais que ça devait quand même pas être horrible. Non, mais en plus, vraiment, je connaissais pas du tout. J'avais quand même fait quelques vérifications avec des personnes qui connaissaient la ville pour voir qu'il n'y avait pas un gros truc qui n'était pas marqué sur Wikipédia, du genre... Attention, parce qu'en fait, je sais pas, c'est impossible de faire du cheval là-bas ou des trucs un peu plus sérieux comme des vrais problèmes de Wi-Fi ou ce qui ça pour le coup aurait été un peu chiant.
Oui, surtout pour une start-up digitale.
Hein. Ouais, non, là ça aurait été l'enfer. Et c'est vrai que pour le coup, on nous demande tout le temps, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé dans une zone plus rurale, vraiment vraiment beaucoup plus rurale. Et ça pour le coup, le Wi-Fi c'est quand même encore un problème en France. Là, ça va. On arrive à s'en sortir avec le coworking, mais même ici, on n'a pas la fibre. Donc ça semble un peu un truc de parisien bobo, mais en vrai, pour travailler sur Internet, c'est quand même un point important.
Et, essentiel même.
Ouais, et un autre truc d'ailleurs sur la dimension plus rurale, c'est que nous, on a quand même fait bouger une population de salariés parisiens plutôt jeunes qui n'ont pas le permis. Et je pense qu'on aurait eu vraiment pas beaucoup de succès si on avait proposé quelque chose qui impliquait d'avoir le permis. Mais globalement, on peut quand même aller à Marseille en train, enfin, on peut s'en sortir sans. Donc non, ouais, moi, j'avais pas peur, et je me suis dit, au pire, de toute façon, rien n'est jamais vraiment irréversible dans la vie, quoi. Au pire, on bougera, on retournera à Paris, ça, je sais pas, peut-être, hein, d'ailleurs, hein. c'est pas impossible, mais en tout cas, au pire, on ira à Marseille, si on a besoin d'une ville plus grande, au pire, on ira dans tous les petits villages hyper mignons autour de Aix, si vraiment on veut faire un gros shift par rapport à la vie urbaine. À Paris, on se dit, en fait, tout est tellement compliqué pour avoir son job, son appart, enfin, surtout pour avoir son appart, une fois qu'on l'a, on va surtout pas bouger, parce que c'était déjà tellement compliqué pour arriver à cette situation, alors qu'à Aix, et ça c'est le cas pour tous les salariés, donc c'est pas juste moi avec le niveau de vie qui est d'une personne de 30 ans qui est un peu plus élevée que quelqu'un qui a 25. Personne n'a eu de problème pour trouver d'appart. Nous, on en a visité 3. Les 3, notre dossier était accepté. Même celui-là, pour lequel on avait vraiment un coup de cœur, on s'est dit, mais c'est pas possible, il va y avoir 15 personnes. En fait, non, parce qu'il y a beaucoup plus d'offres. Et donc, c'est juste un marché équilibré, en fait. Donc, en fait, on n'a plus cette pression de se dire, mon Dieu, mais si je pars, je vais jamais retrouver quelque chose, quoi.
Avril, tu décides d'ouvrir ce bureau à Aix-en-Provence que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu.
Oui.
Bon, tu as fait ta petite enquête quand même.
Oui.
Et objectif pour les salariés et pour toi, déménagement au 1er septembre.
Ouais.
parce que vous vous engagez à ouvrir le bureau.
Tout à fait.
Et donc, à quelles difficultés est-ce que tu fais face? À quoi il faut penser?
J'ai jamais vraiment voulu acheter ma résidence principale. Et c'est pas vraiment tant un argument financier, mais c'est plus un argument même presque de style de vie. Je me suis toujours dit, j'ai pas envie d'être coincée pendant 7 ans parce que sinon j'aurais pas remboursé mes frais de notaire.
T'es déjà dans une forme de mobilité.
Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est toujours eu c'est un truc, même maintenant à Aix, je sais pas si j'achèterais pour habiter dedans. Sauf, maintenant je réfléchis un peu parce que il y a quand même des biens que je trouve vraiment très beaux. Donc là, c'est plus une logique de se faire plaisir en achetant que d'avoir vraiment cet investissement parce qu'il faut nanana. Mais pour le coup, il y avait déjà cette logique de mobilité. J'avais quelques meubles, mais bon, tu vois, on était à 50 mètres carrés à 3. Donc ça va quand même assez vite à vendre. Une fois que tu as vendu la table Ikea que tout le monde a et tous les trucs pour gagner de l'espace à Paris, les multiples caisses à cacher dans les placards. Donc en vrai, j'ai tout revendu sur le bon coin, ça s'est fait hyper simplement. Je suis descendue avec 2 voitures d'affaires, donc ça allait, sachant que j'ai une Twingo, donc c'est pas non plus la folie. Et pour les salariés, ça a été un peu près pareil. En fait, il y avait quelques personnes qui étaient propriétaires, mais je crois qu'ils ont loué leur appart. Et puis en fait, les apparts sont tellement petits qu'on n'a pas d'affaires, quoi, tout simplement. Donc ça a été assez rapide. Ça a été très facile de trouver le bureau, mais je mettrais quand même un petit bémol là-dessus. Paris, il y a quand même un écosystème, surtout ce qui est service aux entreprises, qui est ultra développé et on s'en rend compte quand on arrive ici. Nous, on a eu de la chance, on est tombé dans un coworking qui s'appelle Rue Piétonne, qui était vraiment hyper à notre écoute. Donc, on a pu un peu adapter par rapport à nos besoins parce qu'ils avaient une offre qui venait de lancer. Donc, on l'a un peu construite avec eux. Mais tu vois, au départ, il n'y avait pas de meubles dans la salle de coworking parce qu'eux, ils avaient l'habitude de louer des bureaux vides. On s'est dit, non, mais du coup, si on prend un coworking, c'est pour pouvoir directement s'installer. Le Wi-Fi, dès qu'on a commencé à être une dizaine, à utiliser des CRM de start-up parisiennes, ça a tout fait sauter. Donc, ils ont été top, ils ont fait installer la fibre. Mais bon, si demain, Rue Piétonne devient trop petit, si tout se passe bien, va être le cas à un moment, il n'y a pas beaucoup d'offres quoi, pour aller sur des coworking plus haut. Donc, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut un peu adapter sa façon de travailler et certainement prendre juste des vrais bureaux. C'est quand même un petit peu d'ajustement à faire et des choses à vérifier qui normalement seraient standards, comme le Wi-Fi notamment. Je parle beaucoup du Wi-Fi, mais c'est un vrai problème.
Et surtout qu'aujourd'hui, le télétravail va se démocratiser. Donc,
Oui, c'est ça. Nos hubs, de toute façon, c'est des bureaux qui sont avant tout des points de ralliement avant d'être des postes fixes. C'est pas du tout encore à ce stade comment on va utiliser les bureaux. Ce qu'on voulait juste dire, c'est aux salariés, il y a un bureau Live Mentor dans la ville, donc il va y avoir des salariés comme vous qui vont être autour, donc vous n'allez pas vous retrouver tout seul dans une ville, ce que n'auraient pas voulu les personnes si on avait fait du télétravail total, par exemple. On a des salles de réunion, on a la possibilité de se retrouver. Après, je pense que ça va dépendre un peu des équipes, les règles qui vont être fixées. Certains vont avoir un télétravail presque total, d'autres vont être un peu plus flexibles, ça va dépendre. Mais en tout cas, c'était important pour nous d'avoir un lieu, en fait, soi.
Tu avais 3 conseils à donner à ceux qui ont envie de quitter Paris, lesquels ce serait ?
Le premier, c'est le pire ennemi, c'est vraiment l'inertie. Et nous, on a eu de la chance parce qu'on a eu le confinement qui a vraiment tout arrêté et qui a donné une vraie occasion d'être radicaux. Et je pense qu'il faut essayer de recréer cette radicalité dans son timing parce que sinon, on ne le fait juste jamais. Parce qu'il y a beaucoup de choses à arrêter d'un coup. Son bail, trouver un locataire si on est propriétaire, lâcher ses bureaux si on est entrepreneur. Et en fait, il faut vraiment créer un momentum et en se disant, bon, en fait, là, c'est bon, et se donner une deadline qui soit pas trop longue. Parce que nous, au final, c'est allé très vite, mais je pense que si on avait dit, on bouge en janvier, plein de personnes auraient changé d'avis entre-temps parce que on hésite. Et je pense qu'à un moment, il faut juste y aller. Le deuxième truc, c'est... Alors, autant il faut être très radical dans le fait de bouger, autant... Il ne faut pas s'encombrer la tête, je pense, de se dire que tout est irréversible. En fait, rien n'est irréversible. Alors, c'est plus compliqué quand on a des enfants et qu'il y a des logiques de scolarisation, etc. Mais ça va quand même. On reste quand même en France. Au pire, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez retourner à Paris. Ça, c'est possible. Notamment, si vous êtes
un âge un peu plus avancé, que vous avez déjà acheté votre appart, ben, au pire, vous revenez, quoi.
Ou aller dans une autre ville.
Aller dans une autre ville, exactement. Ou, surtout, à l'intérieur d'une ville, en fait, il y a des réalités qui sont multiples. Mmh.
C'est marrant, c'est ce que me disaient Alex et Mathieu. Et ils disaient ça, ils disaient, mais pour nous, l'idée, c'est pas de trouver la ville idéale, et ça n'a pas à durer pour toujours.
Oui.
C'est simplement, pour eux, la question importante, c'était le style de vie auquel ils aspiraient,
ouais.
et de pouvoir se l'offrir.
Mmh. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est déjà, rien qu'à Aix-en-Provence, il y a une multitude de styles de vie possibles. On peut habiter en centre-ville, dans un appartement un petit peu historique comme ça. On peut habiter en centre-ville, c'est ce qu'a choisi Sybille d'ailleurs, dans un appartement un peu plus moderne avec une piscine.
Sybille, c'est une de tes salariées.
Ouais, tout à fait. On peut habiter un peu à l'extérieur, avoir une petite maison avec un jardin. Enfin, on peut vraiment choisir plein de choses. On peut même habiter à Marseille, en soi, si on veut reproduire des temps de transport parisien. Et encore, ça va, c'est 40 minutes, je crois, une demi-heure en voiture. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire en se disant, en se faisant un peu « je veux être... » le symbole de Aix-en-Provence auprès de mes potes. Est-ce que je suis un peu un côté, je veux incarner un changement, donc je veux forcément prouver à mes potes que c'est bien, qu'ils devraient faire comme moi. En fait, non, enfin, pas de pression. Au pire, d'ailleurs, si ça se trouve, vous allez arriver dans une ville, c'est horrible, c'est pas grave. Enfin, la démarche est déjà enclenchée. Et en fait, je pense, dès qu'on a le mouvement, après, on peut réajuster par rapport à ce qui nous plaît ou pas.
Et le troisième conseil ?
Faut juste le faire en fait.
Just do it.
Ouais, non mais c'est un peu bateau, mais je suis très très étonnée de la vitesse à laquelle j'ai vu les changements. Je parlais justement de cette petite Espagne, boulevard, mais du petit titillement qu'on a tout le temps parce que c'est compliqué de s'organiser, parce qu'il faut toujours prévoir. Et en fait, moi je me rendais pas compte parce que pour moi c'était normal. Et en fait, je me rends compte ici, je l'ai plus du tout. Ça m'arrive jamais de me dire, mon Dieu, mais comment je vais tout faire ? Ça n'arrive plus du tout. Alors que je travaille pareil, j'ai tout autant de choses à faire. J'ai même pas pris spécialement de vacances, en fait, en plus en étant ici. Donc, je suis vraiment à mon rythme normal. Mais juste, il y a beaucoup plus de spontanéité dans la façon de s'organiser. Les distances sont tellement plus petites. Et ça, je pense, c'est le cas dans toutes les villes. Je peux aller au marché le midi parce que j'ai le temps, parce que c'est juste à 5 minutes. Je rentre chez moi et je dépose tout au frigo et je le cuisinerai le soir. Et ça, c'est un truc, même faire des courses à Paris, c'était tout le temps. Alors, c'est en rentrant, mais il faut que je sorte au métro. De toute façon, mon sac est trop petit, donc je ne peux pas porter beaucoup de choses. Enfin, bref. Et c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'en fait, on reprend un peu le contrôle sur la légèreté et la spontanéité. Et ça, c'est en un mois. Et je pense que c'est indépendant du soleil. C'est juste le fait que c'est beaucoup plus simple parce que les choses sont plus proches. Mais je pense que oui, c'est important, ne serait-ce que de faire l'expérience, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on est résilient à toutes ces petites douleurs qu'on a et auxquelles on s'habitue, mais en fait, ce n'est pas du tout la seule option et ce n'est pas la norme surtout. Et je pense qu'on a oublié.
Donc, le troisième conseil, ça pourrait être d'être attentif à ces petites douleurs du quotidien.
Ouais, prendre conscience d'eux.
Prendre conscience d'eux et regarder à quel point ça impacte ta vie.
Refuser de faire de ça la norme, en fait. Et je pense que encore une fois, c'est des problèmes de riches. Il y a plein d'autres vrais problèmes, mais c'est juste, enfin, encore une fois, on vit qu'une fois, quoi. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de tout faire pour continuer à accepter en fait ces petites douleurs, ou est-ce que on cherche plutôt avoir un équilibre de vie qui soit vraiment, je pense, sain en fait. Depuis que je suis ici, je me rends compte, mais en fait, ça n'a juste aucun sens de faire 2h30 de transport pour aller faire du sport, quoi.
T'as une meilleure santé mentale.
Ah ouais, et je me rends compte, oui, qu'il y avait plein de choses que j'avais normalisées, comme quoi c'était normal.
Comme la boule au ventre, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Et à l'inverse, quels sont les écueils auxquels il faut être attentif ?
Moi, c'est pas un écueil pour moi, parce que, ayant grandi en province, je l'avais déjà, mais je pense faire attention aux problématiques de mobilité type permis. Je pense que c'est pas mal quand même d'anticiper dans les villes. C'est bien d'avoir une voiture. Donc peut-être passer le permis avant, il faut quand même y penser, ou un vélo électrique très puissant, mais je pense que la voiture, c'est malheureusement encore important dans la majorité des villes. Et sinon, pour les entrepreneurs, faire quand même attention au bassin d'emploi, s'assurer quand même d'avoir un vrai bassin d'emploi aligné avec les personnes qu'on va recruter. À Aix, c'était pas un problème, et en vérité, dans la majorité des villes de France de taille moyenne, il y a des bonnes universités, donc... c'est pas vraiment un sujet, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à ça, notamment sur la tendance ultra-rurale. Si on est une start-up avec un plan de croissance, donc un plan de recrutement, il faut quand même s'assurer qu'on va pouvoir générer suffisamment d'emplois.
Donc le lieu,
suffisamment de personnes quoi, ouais, autour.
Et donc le lieu que tu choisis, ouais, à la fois qui a un bassin d'emploi et peut-être aussi qui soit attractif.
Oui, c'est ça, exact. Oui, il y a ça, parce que il y a l'attractivité et aussi s'assurer aussi du type de compétences qu'on va trouver dans la population autour, parce que je pense que si on est dans un vrai désert, type au milieu des Cévennes, nous ce serait compliqué parce que bah, tout simplement on aurait du mal à trouver des gens quoi. Après on pourrait les faire venir, mais nous c'était, enfin chez nos salariés, ce qu'ils tentaient plutôt, c'était plutôt une ville dynamique de plus petite taille avec beaucoup de nature autour, mais pas forcément être en plein milieu de la nature. Après ça dépend des boîtes.
Et le troisième écueil, ça serait quoi pour toi?
J'ai pas encore testé des allers-retours Paris-Aix. Enfin j'ai fait une fois et ça me semblait faisable, mais peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. Même si franchement j'ai un peu du mal à le croire, parce que pendant longtemps j'ai fait des allers-retours Paris-Rome toutes les semaines en avion, et l'avion c'est quand même le pire moyen de transport du monde en termes de temps perdu, donc là ça me 3 heures en train ça me semble du domaine faisable, franchement j'ai pas encore trouvé quoi, à part le wifi, mais non, franchement, il n'y a pas beaucoup d'inconvénients pour le moment.
Bon, moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi?
Moi, je dis que ça vaut le coup d'essayer de lui dire, en tout cas, à bientôt, quoi.
Merci, Anaïs.
Merci.
Le nouveau départ d'Anaïs et de Live Mentor a été monté et mixé par Emmanuel Charret. La direction artistique, assurée par Carole Debris. Abonnez-vous à Ciao Paris sur votre application de podcast préférée. Suivez-nous sur Facebook et Instagram, @ciaoparis le podcast, tout attaché. Ciao, C-I-A-O. À la semaine prochaine pour le nouveau départ de Victor et Milena, deux salariés de Live Mentor qui ont quitté Paris sur un coup de tête suite à la proposition d'Anaïs.